إكسبريسو.
نواصلوا الآن نمشي تود سويت معنا في المباشر السيد باتريس بيرغاميني سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس. بونجور et bienvenue à vous excellent sur les ondes d'Express FM.
Bonjour Wassim, comment allez-vous?
Très bien.
Tout va bien?
Très très bien, merci à vous.
En particulier.
Comment, pardon?
Dans ces temps particuliers,
oui,
par ces temps
des crises, ben on espère que vous vous portez bien, ainsi que vos équipes ici en Tunisie. On sait que vous avez gardé une bonne partie du staff ici, et tout le monde l'a remarqué. Je pense que votre chancellerie, entre guillemets, ici, est très très active ces derniers temps. Il y a qu'à voir les nouvelles qui nous venaient pas plus tard qu'hier. Il y a même pas 24 heures de Bruxelles et ses 600 millions d'euros sur lesquels on va revenir tout de suite, justement pour avoir plus de détails. Et tout le monde l'a remarqué, hein, que c'était le deuxième montant le plus important derrière l'Ukraine, et que tous les autres montants également étaient assez importants, mais étaient loin par rapport aux 600 millions d'euros. On parle de montants entre 50 et 100 millions d'euros pour les autres pays. On n'avait que 10, et je voulais démarrer avec ça, justement. Est-ce que c'est un message en soi que qu'entend par là l'Union européenne à travers ce soutien à la Tunisie?
C'est très cohérent avec notre vision, la vision européenne, et notre relation privilégiée, prioritaire, stratégique avec la Tunisie depuis le début. On se connaît bien depuis 4 ans maintenant. Avec mon mandat ici, celui de mes collègues européens à Tunis, on souhaite le plein succès de la transition tunisienne, transition politique et transition économique. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Aujourd'hui, il y a cette crise, ce virus qui est là sur la planète, qui a un impact dramatique. Bien évidemment, Dieu merci, pour l'instant, la santé des Tunisiens est là, les efforts du gouvernement sont là. Il y a peu de victimes en Tunisie, il faut s'en féliciter. Le gouvernement a très bien joué la carte du confinement, la population l'a respecté. Il faut continuer, je crois. Il faut continuer, je crois. Et c'est parce qu'on veut veiller à éviter autant que possible un impact économique lourd sur l'économie tunisienne qui pourrait remettre en cause la transition économique, les efforts de relance économique du gouvernement de Farfar, les efforts de réformes économiques, que l'Union européenne répond présente. C'est le premier partenaire de la Tunisie, maintenant tout le monde le sait. Et donc oui, effectivement, la Tunisie, est avec cette enveloppe financière, ce prêt, cette fois-ci c'est un prêt, il y a quelques temps sur les ondes d'autres de vos collègues, j'évoquais des dons, il y a des dons qui sont mis en place, des appuis budgétaires d'un montant de 250 millions d'euros, mais en plus vient s'ajouter ce prêt à des conditions exceptionnelles de 600 millions d'euros, et qui fait de la Tunisie le premier pays bénéficiaire par habitant de tout le voisinage sud, méridionale et orientale. Vous parliez de l'Ukraine. Effectivement, pour l'Ukraine, il y a 1,2 milliard d'euros qui vont être prêtés à l'Ukraine. Mais les Ukrainiens sont 42 millions, donc ils sont 4 fois plus que les Tunisiens, et ils reçoivent que 2 fois plus d'autres pays de la région, comme la Jordanie, par exemple, qui est aussi un pays stratégique, un partenaire privilégié aussi, mais qui a un voisinage compliqué, la Syrie, la Palestine, la Jordanie, c'est compliqué aussi. 200 millions d'euros seulement, donc 3 fois plus pour la Tunisie. Donc oui, la Tunisie est un partenaire stratégique, privilégié, prioritaire, et nous ferons tout, comme le font les amis dans pareilles circonstances, pour soutenir l'économie et la population tunisienne.
Alors ça, c'est pour les 600 millions d'euros, on est bien d'accord, ce n'est pas un don, c'est un prêt. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les conditions de ce prêt?
Écoutez, c'est une demande du gouvernement tunisien, il y a la mise en place d'un don de 250 millions d'euros, là il y a la première tranche de 100 millions qui va être versée d'ici la fin du mois d'avril. 250 d'un côté, c'est du don, encore une fois j'insiste, c'est 600, c'est un prêt. Le gouvernement tunisien a demandé des prêts auprès du FMI, il les a obtenus. Il a demandé aussi un prêt auprès de l'Union européenne. Les conditions sont beaucoup plus favorables au niveau européen. La Tunisie aurait souhaité, dans le cadre de l'assistance macrofinancière européenne, obtenir 800, nous pouvons mettre que 600, parce qu'il y a aussi les autres pays partenaires avec lesquels nous voulons travailler et continuer à les aider, bien sûr. C'est 600, pour tout résumer, on est sur des taux d'intérêt à moins de 1%, c'est-à-dire c'est de l'argent très très peu cher, et remboursable à échéance de 15 à 17 ans. Donc vous voyez, les conditions sont optimales, sont très favorables, et permettent surtout à la Tunisie, dans ces conditions, dans ces circonstances exceptionnelles et très très contraignantes, permettent à la Tunisie d'éviter d'aller trop chercher des financements sur les marchés internationaux, où là, les taux de financement seraient bien plus prohibitifs. C'est ça aussi, avoir un partenaire qu'est l'Union européenne, c'est pouvoir s'appuyer sur lui et bénéficier des conditions de prêt qu'a l'Union européenne, qui sont moins prohibitives que ne l'aurait en temps normal la Tunisie aujourd'hui sur les marchés financiers internationaux.
Tout à fait. D'ailleurs, vous parliez des autres prêts, des autres aides qui ont été annoncées ces 2 dernières semaines. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail de ce trio du ministre des Finances, du ministre de la Coopération internationale et du gouverneur de la Banque centrale. Et pas plus tard qu'hier. Donc, ça, c'est aussi un peu dans le périmètre spécifiquement du ministre de la Coopération internationale, M. Sima Assebi. Et pourquoi je dis ça? Je voulais rebondir parce qu'il y a eu une déclaration. En présence de notre ministre par le passé, donc de la coopération internationale, il me semble, à l'époque, si c'était atelier, à l'époque, il y avait un responsable, c'était le commissaire du voisinage, justement, enfin chargé des affaires du voisinage, l'Union européenne, qui avait parlé à un certain moment de cette initiative des Amis de la Tunisie pour aider à un financement pour la Tunisie de proposer une matrice unique de tous les bailleurs de fonds. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que ce qui est arrivé hier s'inscrit un petit peu dans cette logique-là?
Les efforts consacrés par l'Union européenne en soutien de la transition tunisienne sont là depuis la révolution. Ils se sont intensifiés à partir de 2016. En 2016, les Européens ont décidé de multiplier par deux leur appui à la transition tunisienne. Cela coïncidait avec mon arrivée en Tunisie. 2018, nous nous sommes assurés aussi que cette aide européenne ne soit pas isolée et de considérer que la coordination internationale, la coordination avec d'autres bailleurs de fonds, avec les pays du G7, avec bien sûr toujours l'aval, le feu vert, le soutien des États membres de l'Union européenne, à commencer par la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et bien d'autres. Nous avons décidé en 2018 de montrer au gouvernement tunisien, à l'époque dirigé par Youssef Chahed, donc, qu'il y avait cette coordination, cet effort coordonné et cohérent de toute la communauté internationale pour soutenir la Tunisie. Il y avait donc une première visite du commissaire autrichien à l'époque, en menant avec lui tous les bailleurs de fonds. Il y avait 8 autres bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale, la Banque européenne de reconstruction et de développement, etc., etc., pour dire, voilà, nous sommes là et nous vous appuyons dans vos efforts de restructuration de l'économie tunisienne, de réformes économiques. 2 ans plus tard, ces efforts sont toujours là. Je vous garantis que la coordination internationale fonctionne à plein. Ce matin, avant même de passer sur vos ondes, j'étais avec certains de mes collègues internationaux, occidentaux notamment. Toutes les 3 fois par semaine en ce moment, avec mes collègues européens, nous nous réunissons virtuellement par VTC pour discuter de la meilleure manière d'appuyer la Tunisie. Et pareil avec le FMI, la Banque mondiale. Donc ce PAC, ce team pour la Tunisie est là et nous veillons aujourd'hui dans le cadre de notre relation avec le gouvernement de Yasser Arafat et tous ses ministres. Hier, j'étais avec le ministre des Finances. En début de semaine, j'étais avec l'autre visite du ministre des Affaires locales. Il y a quelques semaines, j'étais avec le ministre de la Santé. Lundi, je verrai le ministre de l'Agriculture. Je suis en contact régulier avec des équipes de la CASBA, bien sûr, aussi. Nous veillons à coordonner tous nos efforts parce qu'il y a un effet levier, parce que l'argent, en tant que tel, ne veut rien dire. Les sommes d'argent que l'on met, on discute là ce matin, il faut les avoir en mémoire par rapport à d'autres montants. Donc, vous citez l'Ukraine, je citais la Jordanie. Mais c'est aussi important de veiller à l'effet levier. Donc, le plus les partenaires de la Tunisie sont mobilisés, sont ensemble et travaillent en bonne intelligence avec les efforts de réforme et de relance économique portés par Elias Farfar et ses équipes, au mieux ce sera pour l'économie tunisienne.
Voilà. Excellence, pour terminer, il y a depuis que cette crise a démarré, il y a déjà eu 2 annonces. Il y a le premier montant d'un peu plus de 200 millions d'euros qui a été annoncé. Donc on est bien d'accord que c'est à part les 600 millions qui ont été annoncés hier. Et puis une initiative la semaine dernière justement d'amis de la Tunisie. Je ne sais pas si vous pouviez nous en dire un petit peu plus. Je parle de Bruxelles, bien évidemment. Donc que ce soit l'annonce qui a été faite il y a 2 semaines ou celle de la semaine dernière.
Sur les montants financiers ou
sur les montants et sur l'engagement d'une manière générale.
L'engagement est là. Nous avons tous les pays européens ont un intérêt stratégique à ce que la transition tunisienne, encore une fois, soit couronnée de succès. Dans un environnement qui est très compliqué, un environnement régional, nul besoin de parler de la Libye, la situation en Libye est très compliquée. Aujourd'hui, nous devons être inquiets pour la crise depuis 2 jours sur le cours du baril pétrolier, avec un impact qui va être très lourd sur le voisin algérien. Et donc, on a la petite Tunisie au milieu de cet environnement régional très déstabilisé, très menacé par les conséquences économiques du virus, de la crise du Covid, qui est là et qui résiste et qui fait le mieux qu'elle peut. Et donc, c'est à ce moment-là, parce que cette transition politique, cette transition économique, ce modèle tunisien est là, il faut le préserver, il faut l'encourager, le soutenir. C'est notre vision depuis le début, depuis la Révolution. Je vous disais à l'instant, tous ces efforts, on a décidé de les rassembler, de les coordonner, de les multiplier, de les démultiplier depuis 2016, 2018. Et on va continuer. Il faut espérer maintenant que cette crise, que ce virus, que la Tunisie continue à être davantage protégé que ses voisins et que d'autres pays en Europe. Hein. L'impact sanitaire ici est très, très relatif et c'est tant mieux. Tant mieux, il faut préserver cela, il faut préserver l'économie et veiller peut-être à saisir toutes les opportunités pour aller de l'avant. Réformer les secteurs économiques les moins résilients, travailler sur les plus prometteurs comme la digitalisation, aider l'agriculture tunisienne. Il y aura beaucoup de choses à faire qui permettront, je crois, dans l'après-Covid, d'aider la Tunisie à accélérer et à franchir un nouveau cap et à transformer l'essai. C'est ça notre volonté, c'est notre analyse, c'est notre vision et c'est pour cela que nous déployons tous ces efforts avec le gouvernement tunisien, avec les autorités tunisiennes.
Parlons futur en une minute pour ce qui nous reste du temps de cette interview. On sait que vous avez des engagements. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dossiers que vous seriez prêt, peut-être c'est le moment, de remettre sur la table ces négociations entre notre pays et l'Union européenne? Est-ce que c'est d'actualité? Tout le monde est en train de repenser ses modèles de développement, ses relations. Est-ce que c'est un bon timing ou est-ce que c'est encore une occasion, enfin c'est encore une raison pour retarder encore plus ces accords qui étaient en négociation entre nos deux pays?
Écoutez, ça dépendra des autorités tunisiennes qui doivent développer leur matrice de réforme, de relance économique et d'anticipation du jour d'après. Il faudra travailler sur le moyen-long terme. Je vous disais, travailler davantage sur des secteurs qui sont résilients, mieux résilients du point de vue économique. L'agriculture, l'économie verte, une révolution verte, on le sait dans l'après-Covid, on le savait avant, mais on le sait encore mieux pour l'après. Travailler sur l'économie bleue, l'économie verte, ce sera fondamental. Nous aiderons la Tunisie à faire ce choix-là. La digitalisation de l'économie avec tout le capital humain en matière d'ingénierie dont dispose d'intelligence artificielle et autres, numérique, la Tunisie, je crois qu'il faut vraiment s'appuyer là-dessus et nous encouragerons cela pour permettre, encore une fois, je parlais de transition politique, de transition économique, à la fin des fins, il s'agit tout simplement d'un concept, cette meilleure redistribution de la richesse économique. Et c'est ça aussi l'avantage de la démocratie. En général, la démocratie en Tunisie, elle doit permettre, s'il y a un bon modèle économique qui est mis en place, d'assurer davantage de redistribution économique. Et c'est cela qui permet de réactiver l'ascenseur social,
Tout à fait.
la meilleure égalité des chances, la meilleure redistribution du revenu. C'est ça. Et est-ce que d'autres accords qui étaient en négociation entre l'Union européenne et la Tunisie vont pouvoir venir? Nous verrons. Est-ce qu'on va pouvoir relancer d'autres négociations? Avant la crise, avant la crise du virus, nous étions en train de discuter de la possibilité de signer le fameux accord Open Sky,
Tout
ciel
à fait.
ouvert.
D'ailleurs, il y a un
Pour
auditeur
tenir.
qui a posé cette question. Il a dit, puisqu'on pense, on dit repenser ce modèle du tourisme, est-ce que ce n'est pas une occasion de remettre ces négociations sur la table d'Open Sky, justement?
Moi, je pense, le tourisme, quand on est un pays, quand on a la chance d'avoir la localisation géographique de la Tunisie, le tourisme, c'est évident depuis des décennies. Mais on le voit, le tourisme, malheureusement, n'est pas un secteur économique particulièrement résilient. On l'a vu en 2010 avec la Révolution, on l'a vu en 2015 malheureusement lorsque la Tunisie a été frappée de plein fouet par les attaques terroristes. On le voit cette année à cause du virus. Donc trois raisons totalement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et le tourisme à chaque fois qui est impacté massivement parce que là aujourd'hui le ciel se referme. Le ciel se réouvrira demain, un jour j'espère. Nous avons travaillé depuis les 2 dernières années et plus à la mise en place d'un traité au qui a permis avec d'autres pays de la région, notamment le Maroc ou les Émirats, demain aussi les Émirats souhaitent avoir un traité Open Sky avec l'Union européenne pour permettre de mettre à niveau leur compagnie nationale, d'assurer de meilleure sûreté au niveau des plateformes aéroportuaires. Nous y travaillons. J'espère qu'après la crise du Covid, on pourra relancer cette négociation. Mais une chose est sûre, c'est que les modèles de tourisme traditionnels, de tourisme de masse, devront être repensés. Il est trop tôt pour l'affirmer comme cela, bien sûr. Mais je pense que ça devra faire partie d'une réflexion nationale ici. Ça fait partie d'une réflexion au niveau européen d'ores et déjà. Nous, avec mes équipes, on avait déjà commencé à travailler avec le gouvernement de Youssef Chahel et les différents ministres du tourisme avec lesquels nous travaillons, notamment le dernier avec René Trabelsi et son successeur aussi que j'ai eu au téléphone il y a 2-3 semaines, travailler sur des modèles de tourisme alternatif. On a investi beaucoup de fonds du côté européen, en bonne intelligence avec certains États membres, pour développer des tourismes alternatifs, le tourisme rural, le tourisme lié à l'artisanat. C'est des choses qui permettront, je pense aussi, de mieux accompagner le développement économique local. Tout cela doit être repensé pour l'après-Covid. L'Europe, une chose est sûre, elle sera là pour aider à la redéfinition de ses modèles et à, encore une fois, assurer le plus de croissance économique possible pour la Tunisie.
Très bien, merci à vous, Excellence Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin, surtout pour revenir un petit peu plus en détail sur les fameux 600 millions d'euros, je rappelle. C'est l'actualité de la veille d'aujourd'hui d'ailleurs. Merci à vous, Excellence. Chocalik.
Merci, à bientôt.
À très vite.